VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle américaine 2016. La candidate démocrate à la présidence, Hillary Clinton, confiante dans ses chances à l'élection du 8 novembre, tente maintenant d'aider les candidats démocrates aux législatives. Pour sa part, le chef du Parti républicain, Reince Priebus, bat une nouvelle fois le rappel des troupes en faveur de Donald Trump, le candidat du parti à la Maison-Blanche. Le point avec Timothée Donogmaï, au micro d'Idriss Fall. D'Idriss Assédoudia.
La démocrate Hillary Clinton peut déployer des efforts en faveur des autres candidats démocrates dans la mesure où elle bénéficie du concours de plusieurs personnalités démocrates, notamment des occupants actuels de la Maison-Blanche. Selon son porte-parole, elle battra campagne cette semaine et pour la première fois avec la première dame Michelle Obama lors d'une visite à Winston-Salem en Caroline du Nord. Le président Obama, lui, se rendra dans le Nevada pour plaider la cause de Mme Clinton, mais aussi appuyer la tentative de son parti de reprendre le contrôle du Sénat. Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Harry Reid du Nevada, prend sa retraite après un cinquième mandat et les démocrates entendent tout mettre en œuvre pour conserver son siège.
Alors que les démocrates font front commun dans cette campagne, les républicains ont encore du mal à resserrer les rangs autour de leur candidat Donald Trump.
Tout républicain doit soutenir le candidat nommé par le parti, à savoir Donald Trump, a martelé dimanche le chef du parti républicain, Reince Priebus, preuve de la vive préoccupation du camp républicain. Priebus, qui prédit une victoire de Trump le 8 novembre, a défendu le refus controversé de son candidat de s'engager à accepter les résultats des élections avant de les avoir vus. Donald Trump fait allusion au cas où le vote serait serré et où quelques centaines de voix seulement sépareraient les deux principaux candidats, a assuré le président du Parti républicain.
Merci Timothée Donangmaï. On passe maintenant à l'Afrique. Au Burkina Faso, la police nationale a mis fin aux activités d'un réseau de recruteurs de jeunes pour des actions de terrorisme. Un terroriste présumé a été abattu dans le cadre de cette opération dans la banlieue de Ouagadougou. Les détails avec notre correspondant sur place, Zoumana Rodongo.
C'est grâce à la collaboration des habitants du quartier Kilouin que la police a été informée des agissements du réseau de recruteurs de jeunes terroristes. Elle a alors décidé d'agir, explique Lazare Tarpaga, le directeur général de la police.
Nous avons donc essayé de suivre les traces et de pouvoir remonter pour savoir si nous pouvons mettre la main sur ceux qui viennent pour effectuer ces recrutements. Ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons débusqué le lièvre que nous avons poursuivi. Et nous avons essuyé des tirs, nous avons riposté. Nous sommes toujours en train de rechercher au moins 3 autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo-Dioulasso.
Pour Maïsa Sérémé, le procureur général du Faso, les effets laissés par les recruteurs vont être d'un apport inestimable dans la poursuite de l'enquête. Maïsa Sérémé, procureur général.
Nous avons un sac qui contient des portables, qui contient différents effets que nous allons exploiter pour essayer de retrouver les ramifications avec les complices qui se trouvent à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Nous allons exploiter les différents coups de fil à travers les téléphones portables qui ont été passés pour essayer de retrouver tous ceux qui sont impliqués dans ce recrutement de nos enfants.
Le ministre de la Sécurité, sans vouloir en dire plus, salue la collaboration des populations. Suivons le ministre Simon Compaoré.
Quelques éléments ont été appréhendés et tout cela, comme on a dit, il faut éviter d'en dire trop. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse et la population est en train de collaborer efficacement.
Soumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée a déjoué une tentative de détournement d'un navire dans le delta du Niger, dans le sud du pays. Et elle a arrêté, lors d'un incident séparé, 5 auteurs d'actes de vandalisme contre des installations pétrolières. C'est ce qu'a annoncé hier dimanche le porte-parole militaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en RCA, l'appel à une journée ville morte lancé par la société civile est suivi ce lundi dans plusieurs quartiers de Bangui. Ce projet a suscité la colère du gouvernement, nous dit notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le groupe de travail de la société civile veut, à travers cette journée ville morte, exiger le retrait de la MINUSCA, la force de l'ONU, dans le pays. Les leaders de cette organisation accusent les casques bleus de non-respect de leur mandat, entre autres la réduction de la présence des groupes armés et la protection des civils. Gervais Lacosso, un des leaders de la société civile.
Nous demandons le départ de la MINUSCA aujourd'hui parce qu'ils ont failli et doublement failli à leur mission. Ils sont là pour protéger la population civile, ils sont là pour réduire la présence des groupes armés, mais les populations civiles meurent chaque jour et devant eux. Et il y a eu une montée en puissance des groupes armés. Pour nous, leur présence ici est inutile.
Le gouvernement n'a pas caché sa colère. Dans une déclaration, il invite les centrafricains au boycott de cet appel. Théodore Jou son porte-parole.
Il y a lieu de s'interroger sur les motivations qui tendent à soutenir l'organisation de cette ville morte. Ville morte pourquoi ? Ville morte pour qui ?
Une pétition de la société civile est en circulation depuis la semaine dernière dans le pays pour exiger le retrait des casques bleus de la MINUSCA, une pétition qui aurait déjà recueilli plus de 30 000 signatures en 72 heures. Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Opération Ville Morte également à N'Djamena au Tchad, où le collectif contre la vie chère appelle la population à suspendre toutes les activités aujourd'hui. C'est pour protester non seulement contre les mesures prises par le gouvernement pour redresser les finances publiques et aussi le manque de régularité dans le paiement des salaires des fonctionnaires, mais aussi pour exiger la reprise des activités scolaires et académiques. Idriss Fall a joint Digam Nayel Nelly Versinus, président du collectif contre la vie chère à N'Djamena.
Le collectif Tchadien contre la vie chère appelle toute la population de N'Djamena à observer une journée ville morte ce lundi 24 octobre 2016 de 6h à 16h dans la ville de N'Djamena. C'est une ville morte contre les 16 mesures. Ville morte contre le gel des bourses des étudiants. Ville morte contre la corruption érigée en système de gouvernance. Ville morte contre la mauvaise gestion des ressources nationales. Ville morte contre le non-paiement régulier des salaires des fonctionnaires et la bourse des étudiants. Ville morte contre le détournement des deniers publics. Ville morte contre des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Ville morte contre la non-reprise des activités scolaires et académiques. Ville morte contre le non-paiement des créances des opérateurs économiques. Ville morte enfin contre la sécurité de la vie.
C'est une sorte de grève générale, quoi. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à paralyser N'Djamena aujourd'hui?
Je crois bien parce que la situation est déjà paralysée. Le pays est déjà malade. Il ne reste que seulement à l'amener à l'hôpital, au pavillon d'urgence, savant que c'est une action qui va s'étaler dans la durée d'une manière répétitive. Donc c'est également une manière de conscientiser la population à prendre son destin en main. Il y a un adage de chez nous, un sac vide ne peut se tenir debout. Le Tchadien n'arrive même pas à manger à sa faim, n'arrive pas à s'éduquer. À quoi bon alors de continuer à croiser les bras ou bien attendre son cercueil à la maison? Il faut sortir.
Le gouvernement dit n'avoir pas tellement de moyens parce que le prix du baril de pétrole a chuté.
Le Tchad n'est pas le seul pays qui exploite du pétrole. Quand on gouverne, on prévoit. Quand on pompait encore le pétrole, le prix du baril était à 5 €. Qu'est-ce qui empêchait nos dirigeants à épargner de l'argent? Qu'est-ce qui empêchait nos dirigeants à avoir une caisse d'instabilité? Donc, le résultat que nous vivons aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance. Et le gouvernement est le seul responsable, il connaît là où se trouve l'argent. Donc, il n'a qu'à rapatrier l'argent pour faire fonctionner l'appareil de l'État.
Digam Nayel Nelly Versinis, président du collectif tchadien contre la vie chère. Au Cameroun, journée de deuil ce lundi en mémoire des victimes du déraillement d'un train qui a fait 79 morts vendredi dernier sur la ligne Douala-Yaoundé. Le point avec Timothée Donangmaï.
De retour dimanche d'un voyage à l'étranger, le président camerounais Paul Biya a promis une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette tragédie. Il a aussi ordonné la prise en charge des blessés par l'État. Le gouvernement a de son côté lancé un appel aux dons de sang en faveur de quelques 600 blessés. Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux de l'accident à la recherche d'autres corps. L'accident a eu lieu près d'Ezeka, à 120 km de Yaoundé, et l'acheminement des corps vers la capitale politique et Douala, la capitale économique, complique les recherches entreprises par les familles. Même chose pour les blessés, l'hôpital d'Ezeka comptant à peine 60 lits. Le train accidenté transportait plus de 1 400 personnes, soit plus du double du nombre en temps normal. Des rames additionnelles avaient dû y être rajoutées face à une demande accrue liée en partie au fait que les transports routiers avaient été bloqués par l'effondrement le 21 octobre d'un pont sur la principale route reliant Yaoundé et Douala.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.